Radio Kapi.
Oh, Kapi. Belinda Bosuma la présentation.
Un drame de Calais au sud Kivu. La population locale demande au gouvernement de prendre en charge les enfants orphelins abandonnés à eux-mêmes, ainsi que tous les étudiants de Bushushu et Nyamukubi, après avoir perdu leurs parents dans ce drame. Demande formulée à l'occasion du passage du Premier ministre et sa suite hier à Calais. Kasai Oriental, bloqué depuis des semaines, des camions transportant des marchandises en provenance de Lubumbashi arrivent finalement à Mbujimayi, mais difficilement. En cause, le mauvais état de la route nationale numéro 1, signalent les conducteurs. Du coup, les prix de certains produits qui commençaient à se faire rares ont baissé. Et puis, l'invitée de ce midi, Madame Sokoni Virakali, présidente du conseil d'administration des femmes productrices des savons en RDC, elle nous parle de son parcours dans la fabrication de savons, de l'artisanal à l'industriel. Sachez tout d'abord que le président de la République est à Shenzhen. C'est la dernière étape de sa visite chinoise. Dans la ville de la technologie, le chef de l'État a assisté à la signature d'un mémorandum d'accord de coopération entre la société Huawei et le ministre du numérique. C'est pour une collaboration dans le cadre de la transformation numérique de la RDC et c'est le DG de Huawei qui a signé pour le compte du gouvernement chinois. Madame, messieurs, bonjour. Au sud Kivu, la population du territoire de Calais réclame encore une prise en charge holistique de la part du gouvernement et ses partenaires pour faire atténuer les dégâts de la tragédie du 4 mai dernier, demande formulée à l'occasion du passage de la délégation du Premier ministre hier à Calais. Des détails avec Emmanuel Elameji Wakabidi.
Le Premier ministre congolais affirme être venu répondre aux besoins actuels de la population sinistrée de Calais. Jean-Michel Samalukonde.
Je suis dans la suite de cette mission qui nous a été confiée par Son Excellence Monsieur le Président de la République de venir compatir avec nos compatriotes qui ont connu cette catastrophe et qui a amené à ce que nous puissions déclarer territoire de Calais zone sinistre. Donc nous sommes venus particulièrement pour cette question de la route qui avait été coupée et ces travaux qui vont démarrer dès ce jour après mon passage pour permettre à ce que on puisse joindre les deux villes mais surtout acheminer les besoins qui sont attendus ici à Bushushu.
Pendant ces temps, la population de Calais dit rester sur sa soif. Malgré ce qui est fait, les survivants de Bushushu et Nyamukubi réclament ceci.
Nous venons de demander au Premier ministre présent avec nous ici à Calais de prendre la responsabilité des petits enfants qui sont restés aussi orphelins. Ils sont en train d'aérer par-ci par-là, que leurs pères ou mères sont aussi partis. Nous avons également demandé à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de prendre en charge tous les étudiants originaires de Bushushu qui venaient de perdre leurs parents dans cette catastrophe naturelle. Ils n'ont plus des moyens à vivre sur le plan scolarisation, ainsi de suite.
De retour de Calais, Emmanuel Lamejoa Kabedi, Radio Kapi.
Toujours à propos de Calais, concernant cette fois la réponse médicale apportée aux rescapés, notez que des milliers de patients ont été pris en charge par la clinique mobile de la Fondation HJ au village de Bushushu, dont les activités ont pris fin ce week-end. Pendant deux semaines, des professionnels médicaux ont assuré divers services tels que le traitement des blessures et des maladies, ainsi que la distribution des matériels médicaux d'urgence. Reportage de Cynthia Bachizi.
Cette clinique a été installée deux jours après les inondations meurtrières. Au total, ce sont 2513 malades qui ont été pris en charge, parmi lesquels 10 cas ont nécessité un soutien majeur. L'exemple de cette petite fille de 10 ans qui a particulièrement marqué le docteur Jean-René Ebengo, l'un des médecins de l'hôpital HJ déployé à Kalehe.
Quand nous l'avions vue pour la première fois, elle avait une tuméfaction, un gonflement et une difficulté pour marcher. Immédiatement, on avait décidé de la prendre en charge en la transférant à Kinshasa. Tout simplement parce qu'elle doit ipso facto subir une chirurgie.
L'initiative de la clinique mobile, comme celle de beaucoup d'autres acteurs humanitaires, a permis d'aider les habitants rescapés, blessés, d'entamer leur parcours vers la guérison. Jemima Roubouillé, responsable des opérations de la Fondation AGI.
Nous avons apporté notre pierre à l'édifice. La population locale qui nous a accueillis, ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Il y a des frères et des sœurs des quatre coins de la République qui les écoutent.
Cette clinique mobile avait une capacité de 20 lits. Ils ont été tous laissés au centre de santé de Bushushu comme don. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Nord Kivu, l'isolement accru du territoire de Walikale asphyxie les opérateurs économiques locaux de la région, coupés du chef-lieu de la province et de tous les autres centres commerciaux de la région. Le territoire de Walikale est condamné au sous-développement, déplore un député provincial élu de ce territoire. D'après le député Prince Kiangi, aucune évacuation n'est possible suite au mauvais état ou à l'impraticabilité des routes et de la voie aérienne fermée. Le député Kiangi explique la situation au micro de Denise Lukeso.
Les répercussions de son enclavement sont perceptibles à différents points de vue. Le prix des biens, denrées alimentaires et produits de première nécessité est galopant. Il est le double, soit le triple de Goma, de Bukavu, de Kisangani. Les malades ne peuvent non plus être évacués en cas d'urgence sanitaire. Et aujourd'hui, on enregistre beaucoup de cas de décès. Les humanitaires ont difficile d'atteindre toutes les personnes nécessiteuses. Les populations se sentent abandonnées par les autorités provinciales, tout simplement parce que celles-ci n'ont pas accès au territoire de Walikale. Les opérateurs économiques se sentent asphyxiés parce qu'ils ne peuvent atteindre les autres centres commerciaux de la région. Voilà pourquoi, à cette occasion, je demande à Monsieur le directeur général de l'autorité de l'aviation civile de bien vouloir accepter d'élever cette mesure afin de soulager tant soit peu la misère de notre population. Et s'il estime qu'il y a des travaux à finaliser, ses services peuvent accompagner la province pour les parachever au profit du bien de notre population.
Rendons-nous en Ituri. Au moins 478 élèves de l'école primaire Lalo dans le secteur de Walendupiti, territoire de Djougou, ne vont plus à l'école depuis une semaine. Motif, la toiture des trois bâtiments de leur école a été emportée par un vent violent. Ce dimanche, la coalition associative Résolue pour la défense des droits de l'homme a exprimé ses inquiétudes face à cette situation qui risque, selon elle, d'hypothéquer l'année scolaire de ses enfants à une période où ils se préparent à affronter les examens de fin d'année. Cette association appelle à une assistance d'urgence. Martial Kiza nous relate les faits.
Mardi dernier, dans la journée, un vent violent accompagné d'une forte pluie a balayé le secteur de Walendupiti, un territoire de Djougou, causant d'énormes dégâts matériels. À l'école primaire, Lalo, construite à matériaux semi-durables, l'étole des trois bâtiments ont été emportés par les vents. Le lendemain, les enfants n'ont pas pu regagner leur salle de classe par peur d'être exposés au soleil. Et ils n'ont pas toujours repris, déclare un parent que nous avons joint au téléphone. La coalition associative est résolue pour la défense des droits de l'homme, Kouardo, une organisation active dans la région, plaide pour une intervention rapide du gouvernement et des humanitaires pour les remplacements de la toiture de cette école afin de permettre à ces écoliers de poursuivre leurs études à l'approche des examens de fin d'année scolaire. Ce coordinateur, Benjamin Gabou.
Le cri continue à être poussé même par les parents. Nous aussi, nous le poussons. Il faudrait que les autorités nationales et surtout des provinciales de l'état de siège de vite rejoindre cette école à les appuyer surtout avec l'étole pour que les enfants puissent reprendre les activités comme en avant.
Nous n'avons pas réussi à joindre la chargée des affaires humanitaires et solidarité de l'administration militaire de l'Ituri. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Du côté du Maniema, un lot important des livres de sciences de la vie et de la terre a été remis ce week-end au chef d'établissement organisant l'option scientifique dans la sous-division de Kalima, territoire de Pangui. Ces manuels sont un don du chef du secteur de Béa aux enfants de la 7e et ceux de la 4e année des humanités scientifiques pour les écoles de la commune rurale de Kalima, y compris les écoles de Béa rurale. Les détails avec Florence Kiza.
Pour l'inspecteur exploitant du pôle secondaire de Kalima, ces manuels sont très importants pour l'apprentissage des élèves. Amunda Lakalungu Pierre.
Ces livres préparent la jeunesse de demain. Dans ces livres, nous trouvons les sciences de la vie et de la terre. Il y a la cytologie, la physiologie humaine, la génétique, les grands courants de l'éducation et l'écologie pour les classes de 4e année des humanités scientifiques. Pour la 7e, il y a la botanique, la zoologie, toutes les sciences de la vie et de la terre existe dans ces manuels. C'est un bon manuel conforme au nouveau programme DIDAS.
Le préfet de l'Institut Moussoukou qui manquait ses livres dans son école remercie les bienfaiteurs. Christophe Amissi.
Je me suis renseigné dernièrement à Kinshasa. On m'a dit que ces livres coûtaient 40 dollars. Et quand quelqu'un débourse plus de 50 livres pour des écoles, vous voyez vous-même l'argent qu'il a perdu, plus les transports. L'Institut Moussoukou, vraiment vous remercie grandement.
Signalons que les frais de transport de ces manuels de Kinshasa à Kalima ont été assurés par les chefs de secteur Gilles Swedimindo, Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Je vous l'ai dit dans les titres, au Kasaï oriental, c'est depuis bientôt une semaine que quelques camions transportant des marchandises en provenance de Lubumbashi, bloqués depuis quelques semaines, arrivent à Mbujimayi. Les conducteurs des gros camions affirment avoir fourni beaucoup d'efforts pour atteindre la ville de Mbujimayi par la nationale numéro 1, cela à cause de l'état défectueux de la route. Les quelques conducteurs des véhicules ont pris le risque de venir en ce début de la saison sèche. Cependant, les prix de certains produits manufacturés qui commençaient à se faire rares ont bougé. C'est le cas du ciment, du carburant et des boissons sucrées. Esther Ndalafina, reportage.
Les véhicules en provenance de Lubumbashi sont ces derniers jours visibles dans différents parkings de Mbujimayi, situés non loin des deux grands marchés, Wetrafa, Ex-Simis et Bakwadianga. Les conducteurs affirment avoir traversé d'énormes obstacles avant d'atteindre la ville de Mbujimayi.
Au niveau de Luboudi, il y a des trous béants sur la route. À Kaloule, tronçon impraticable. Après Kamina, au niveau de Katongola, beaucoup de véhicules sont bloqués là-bas. Nous avons fait 2 semaines. Il y a plus de 50 véhicules sur la route.
Ces camions qui arrivent transportent des marchandises qui devenaient de plus en plus rares sur le marché de Mbujimayi. C'est le cas du ciment, du carburant, des boissons sucrées, des poissons salés et fumés. La présence de ces quelques camions ont fait bouger le prix de certains produits.
On achetait les coups pour 45 $. Maintenant, ici, c'est 20 $. On achetait les jus 45 000, 50 000. Maintenant aussi, c'est 25 000 francs congolais depuis une semaine.
Les conducteurs qui sont arrivés récemment en Mbujimayi signalent que d'autres véhicules sont encore embourbés sur la route dans différentes localités et vont dans un proche avenir atteindre la ville diamantifère en ce début de la saison sèche. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Direction la province du Bazouélé. La population de la chefferie Sassa dans le territoire d'Ango s'est dit préoccupée par l'afflux des réfugiés centrafricains sur son sol. Ces derniers fuient les affrontements entre les rebelles Seleka et les éléments de l'autodéfense Zande dans la région de Zemio, frontalière avec la République démocratique du Congo. La société civile locale et l'administration territoriale demandent instamment aux autorités politico-administratives hiérarchiques de déployer massivement les forces de sécurité dans cette contrée afin de protéger la frontières et les populations locales en proie aux exactions des rebelles centrafricains. Le récit de Jacques Moukonkolé.
L'arrivée de ces réfugiés est observée à partir de la première semaine de ce mois, mais depuis le 20 mai dernier, leur affluence s'est accentuée. On compte actuellement plus de 2000 personnes et ces chiffres augmentent chaque jour, souligne l'administrateur du territoire d'Ango. Pour cela, la société civile redoute la famine et l'insécurité dans ces milieux. Théophile Zagbina, président de cette structure citoyenne.
Cette saison n'a pas été favorable aux agriculteurs. Donc nous créons déjà, comme il y a l'arrivée massive des réfugiés, il y aura fait l'année prochaine. Et de deux, nous créons aussi l'infiltration de notre côté parce qu'il n'y a pas une bonne sécurité au niveau de la frontière.
Outre les réfugiés, des rebelles Seleka sont signalés dans la forêt. L'administrateur du territoire les accuse de pillage de biens de la population. Afin de faire face aux menaces sécuritaires, Marcelin Bekabissia lance un cri de détresse au gouvernement afin qu'il envoie massivement les forces de sécurité dans cette région.
Ces militaires soient aussi écoutés, qu'on nous envoie aussi les policiers et les polices de la frontière, là, ça sera bien pour ouvrir aussi certaines des vies causées par la population ainsi que les déplacés qui sont là. Vraiment, c'est notre cri d'alarme.
Si cela n'est pas fait, nous continuerons à assister à de tels scénarios, prévient l'administrateur du territoire d'Ango, Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Retour au Nord Kivu. Des agents de la CENI qui ont travaillé dans le processus d'enrôlement entre février et avril dernier dans la ville et territoire de Beni réclament le paiement de leurs salaires qu'ils n'ont toujours pas touché depuis la fin de ce processus. Dans un mémorandum adressé au gouverneur du Nord Kivu, dont Radio Kapi a reçu une copie ce dimanche, ces agents se disent lassés de patienter un mois après la fin du processus. Ils demandent d'être remis dans leurs droits et implorent ainsi l'implication du gouverneur. Sadiki Aboubakar, reportage.
29 personnes ont apposé leur signature sur ces documents, qui a pour en tête « Collectif des agents temporaires de la CENI en ville et territoire de Beni ». Dans le premier paragraphe, ils disent avoir des larmes aux yeux de constater que le 26 mai dernier, ils ont totalisé un mois sans toucher à leur salaire après avoir rendu des loyaux services de 70 jours à la nation congolaise. Faute de moyens, la plupart mendiaient de la nourriture pour survivre. Nous avons traversé des trajets à pied avec des kits au dos pendant le déploiement, au moment des réparations des kits en panne et le ramassage dans les axes non accessibles aux véhicules, expliquent ces agents. Ils disent avoir encaissé des dettes insupportables sur le terrain et qui souffrent encore de remboursements. Il conclut en disant qu'ils ont travaillé dans une situation d'insécurité aiguë, avec des centres d'enrôlement attaqués par des groupes armés, causant même des pertes en vies humaines. En dépit de toutes ces conditions, ils disent être victimes d'un traitement inhumain de la part de la CENI. Impuissant, ils se rabattent à deux versets bibliques, je cite, Deutéronome 24:15 et Jérémie 22:13, qui parlent respectivement des obligations d'un employeur à l'égard de son employé, fin de citation. Nous avons tenté de joindre le rapporteur de la CENI à ce sujet, mais sans succès. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Des dizaines de milliers de personnes épuisées affluent au Soudan du Sud, fuyant des tensions au Soudan voisin. Hommes, femmes et enfants, ces réfugiés sont arrivés à Renk, au Soudan du Sud, sans vivre juste quelques bagages. Le manque d'eau et de nourriture génère des bagarres dans le groupe, parfois mortelles. Un homme serait mort, roué de coups de bâton, selon des témoins, suite à une dispute pour de l'eau.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons la présidente du conseil d'administration des femmes productrices des savons RDC, Madame Sokoni Virakali, était une des oratrices du colloque des femmes entrepreneurs, colloque tenu hier à Goma. Elle nous explique ici comment elle est parvenue à épanouir sa vision dans la fabrication des savons et comment elle est passée de la fabrication artisanale de ses produits à l'industriel. Madame Sokoni Virakali Rosy s'entretient avec Gabriel Ouaménia.
Bonjour madame.
Bonjour, merci.
Madame Sokoni Rosis, vous participez à un colloque des femmes entrepreneurs de la RDC. Sur quel thème est axée cette activité, madame?
Ce colloque a comme thème, c'est l'avoir de la femme qui crée son pouvoir. Alors ce thème a été choisi parce qu'on a vu que les femmes, ce n'est pas seulement l'avoir financier qui peut faire le pouvoir de la femme, mais la femme doit d'abord savoir ce qu'elle est, connaître son identité, savoir d'où elle vient, où elle est et où elle va. Elle doit donc avoir une vision. Alors c'est autour de ce thème que nous sommes venus échanger avec les femmes entrepreneurs de la RDC, particulièrement de la ville de Goma d'abord pour aujourd'hui.
Vous parlez de la vision. Et d'où vous est venue cette idée-là d'une femme entrepreneur?
L'idée, comme on est en train de parler de la COFEPROSA, c'est par là que je vais commencer. Et la COFEPROSA, au fait, c'est une coopérative de femmes productrices de savons en RDC. Savons sous toutes ses formes, dans la variété, dans cette variété. Il y a des savons liquides, des savons en poudre, des savons en dur. Dans la gamme des savons liquides, nous avons les bactérols, nous avons la bactéricide, nous avons les savons liquides et multi-usages. Et donc, comme vous le savez, les savons, personne ne peut s'en passer. Dans nos ménages, les savons est primordial dans tous les travaux ménagers, dans des hôtels, dans des restaurants, partout. Donc, on ne peut pas se passer du savon.
D'où vous est venue cette idée-là de concevoir vraiment la filière savon dans toutes vos activités?
Les savons intervient partout. Alors l'idée est née de là. Au départ, c'était une femme qui faisait des savons d'une manière artisanale. Alors on a marié cette idée que si nous parvenions à faire de ce qu'elle faisait déjà d'une manière artisanale, le faire d'une manière professionnelle, d'une manière industrielle, ça peut encore donner une autre connotation dans nos familles, dans nos foyers et partout ailleurs.
Alors, comment vous êtes passé de l'artisanal à l'industriel?
Effectivement, il faut d'abord qu'on ait des idées. On a eu les idées. On a eu une vision. Que si on parvenait, parce qu'il y a, beaucoup de femmes qui étaient déjà dans cette activité, qui le faisaient d'une manière artisanale, qui créaient des richesses individuellement. Alors la vision était de mettre ces femmes ensemble, de les regrouper autour de cette coopérative que nous appelons aujourd'hui COFEPROSA. Alors on a réuni toutes ces femmes pour que nous puissions créer des richesses ensemble. Parce que quand vous avez une mission, une vision, c'est pour que vous qui avez d'abord la vision, vous savez là où vous voulez amener d'autres personnes. Que nous voilà, si nous nous mettons autour d'une table, nous voyons où est-ce que nous avions commencé, où est-ce que nous sommes aujourd'hui et où est-ce que nous voulons aller. Alors ces femmes-là ont marié l'idée que nous avions, de pouvoir mettre nos idées ensemble, de pouvoir, parce que pour conquérir, nous sommes en train de dire que nous allons conquérir tous les marchés des savons en RDC.
En RDC, voilà.
Nous avions un plan d'affaires. Mm-hmm. On s'est dit que si on faisait d'une manière artisanale dans des moules qui prenaient des temps, tourner, nous avons fait un plan d'affaires qu'on a budgétisé et on s'est dit que nous devons nous doter de matériel. C'est ainsi que nous avons passé des commandes, des machines qui vont commencer à le faire industriellement. Nous avons acheté des matières premières.
Mm-hmm. Comme par exemple,
bon, c'est toute une gamme.
Oui.
C'est
toute une gamme. Mais quelques-uns seulement.
Il y a les soudes caustiques, il y a l'huile de palme, il y a le parfum, il y a les colorants. En fait, c'est toute une gamme. C'est mm-hmm. toute une gamme.
Madame Sokoni Rosis, c'était un plaisir et je vous remercie.
Je vous remercie également.
La présidente du conseil d'administration des femmes productrices de savon en RDC, Madame Sokoni Rosie, répondait aux questions de Gabriel Ouamenia. Ainsi prend fin ce journal, supervisé et coordonné par Alain Rungouchinch, Polydor Basunga à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.